France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Alors c'est maintenant le temps du procès pour les 130 personnes qui sont mortes, pour les milliers de blessés et leurs familles, pour nous tous qui avons été très touchés émotionnellement le 13 novembre 2015 et aussi pour les 14 personnes jugées, 14 plus 6 absents, dont 5 présumés morts. C'est le temps du procès pour eux aussi, parce que ce qui a commencé aujourd'hui, c'est le processus normal d'un état de droit. Et soyons au moins heureux de ça. Pour les restes, eh bien, on peut voir qu'en avançant, ce procès est un défi logistique, d'abord pour la justice, un défi pour l'institution judiciaire. Ce procès, c'est aussi beaucoup d'ombre au-dessus des accusés et sur le rôle précis de chacun. Et en sortant dans 9 mois, est-ce que les victimes, est-ce que les familles en sauront plus sur tout ce que nous savons déjà? Peut-être que oui, mais ça n'est pas sûr. Est-ce qu'un procès peut délier les langues d'accusés parfois mutiques? Le sait-on? Est-ce que l'effet catharsis a forcément lieu? Pas forcément. Et on verra. C'est aussi ça, les 9 mois à venir. Il y aura des moments de pure tension, très lourds à gérer. Il y aura des colères, il y aura des questions en suspens. Il y aura des moments d'ennui et sans doute de frustration. Mais ce procès a lieu. Et venez donc poser vos questions pour mieux comprendre ce qui va se jouer pendant les 9 mois qui viennent à nos invités, sur le déroulé, sur le fond comme sur la forme. C'est le téléphone sonne et bonsoir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et c'est Liliane, la première. Bonsoir Liliane, soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre ma question. Moi, voilà, je voudrais savoir si il n'est pas risqué de relayer la parole, entre autres, de cette personne dont je ne veux pas prononcer le nom. Je suis enseignante et voilà, ça va être difficile d'accepter, d'entendre, si vous voulez, qu'on tienne le procès, tout, je ne critique rien. Mais faut-il répéter mot pour mot sa parole? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être comprise pour appeler à d'autres choses qui pourraient se passer?
Merci beaucoup Liliane pour votre question. Vous n'êtes pas la seule à poser cette question sur, pardon, on va le dire comme ça, une forme d'effet pervers en fait de ce genre de ce genre d'immense procès. Pour répondre à votre question, à toutes celles qui viendront d'ici 20h et discuter ensemble toujours au Palais de Justice, je salue Xavier Nogueras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat de la défense, Xavier Nogueras, l'un de vos clients. Vous avez entendu tout à l'heure d'ailleurs dans le journal de 18h, et l'un de vos clients est à l'intérieur de ce procès. On en dira plus tout à l'heure. Charlotte Spiret, que je salue aussi, est avec vous. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Qui suit le procès évidemment pour France Inter, et Jean-Charles Brizard est avec nous. Bonsoir Monsieur Brizard.
Bonsoir.
Président du Centre d'analyse du terrorisme. Je vais vous poser la question à tous les deux, Xavier Nogueras. D'abord, sur l'interrogation de Liliane, est-ce que ce risque, il existe? On va évidemment répéter chacun des mots qui seront dits à l'intérieur de ce tribunal. Les mots ont une importance, les mots ont un sens. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de danger, ou est-ce que il faudra faire avec, Xavier Nogueras?
C'est une excellente question. Je me suis moi-même posé quand les paroles ont été prononcées. Est-ce que c'est une question qui doit se résoudre au niveau de l'enceinte judiciaire, qui doit se poser au niveau de l'enceinte judiciaire ou tout autour? Je pense que c'est un risque qui doit être pris à partir du moment où ce qui compte, c'est de comprendre le fond des individus. Là, on avait le choix, si vous voulez, on hésitait entre avoir quelqu'un de complètement silencieux et quelqu'un qui allait revendiquer. Oui, je pense que d'une certaine manière, il y a un risque pour les gens qui écoutent. Mmh. Après, je suis aussi, j'ai vous entendu parler tout à l'heure, je crois profondément à la capacité des individus à changer. J'ai eu le sentiment d'entendre quelqu'un qui était dans une forme de folie, probablement liée aussi à toutes ces années de détention, et une détention particulière, un isolement. Je suis quelqu'un de très, très, très optimiste, et je me dis qu'il y a 9 mois d'audience, il y a tout un mois de confrontation avec la tragédie, les larmes, des bouleversements de vie. Est-ce que ça va pas avoir la vertu de faire avancer cette personne? qui pourrait peut-être être moins dans la revendication. C'est aussi un point de départ. On va voir comment les choses évoluent. On pourra constater comment ce que c'était au départ et comment ce sera à l'arrivée. Donc c'est pas inintéressant aussi d'entendre ce positionnement. Alors moi j'ai un peu de mal à parler de lui. Je suis pas son avocat. Ce que je peux dire, c'est que ces avocats qui sont talentueux, brillants, vont faire le travail nécessaire pour faire en sorte qu'il s'exprime.
Et en même temps,
la seule chose que je note moi aujourd'hui, c'est qu'il s'est exprimé. S'est exprimé. Alors peut-être que ça plaît pas, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement dur à entendre, mais en tout cas, il dit des choses. Et ça, c'est aussi un peu une bonne nouvelle.
Et Charlotte Piret, moi, ce que j'ai entendu des témoignages que vous avez recueillis et qu'on a entendu dans les journaux à 18h et 19h, c'est que les victimes ne sont pas dupes, en fait, dans leur réaction par rapport à ce qu'a dit Abdeslam pour ouvrir ce procès, ne sont pas dupes du jeu aussi qu'il est en train de jouer au démarrage. Il sait qu'on attendait ces mots et au fond... Il a donné ce qu'il... J'étais sur le point de dire ce qu'on attend de lui. Non, pas forcément, mais il a donné ce qu'on dit dans ce genre de circonstances quand on est Salah Abdeslam. Et ceux qui l'ont reçu savent très bien, en fait, comment recevoir ce genre de vocabulaire également.
Oui, je pense qu'il y a forcément une forme de violence dans ces propos qui ont été donnés, en tout cas exprimés devant la cour. Maintenant, il n'y a pas eu de réaction très vive finalement au moment où ils ont été prononcés au sein de la salle d'audience. Alors, il faut imaginer cette salle d'audience. C'est une salle immense, pleine à craquer. Les gens sont très loin les uns des autres. Finalement, Salah Abdeslam, quand on se trouve sur les bancs du public, là où se trouvent les parties civiles, c'est un individu qui se trouve à des dizaines de mètres et qu'on distingue à peine. Malgré tout. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Fabienne. Moi, il y avait beaucoup de parties civiles que j'ai eu la chance de rencontrer en amont de ce procès et qui disaient finalement que leur démarche à elles, c'est de venir déposer, c'est de venir livrer leur vécu, leur douleur, leur ressenti, leur processus de résilience depuis ce 13 novembre 2015 et de voir aussi la justice faire son travail. Elles n'ont pas une attente forcément particulière pour l'un ou l'autre accusé, tous à l'Abdeslam soit-il.
Merci beaucoup, Charlotte. Jean-Charles Brizard, là-dessus, sur l'idée, vous qui présidez le Centre d'analyse du terrorisme, sur l'idée de ce qu'il dit au démarrage, de ce qu'on attend qu'il dira de toute façon au démarrage et de ce que ça peut provoquer.
Je crois d'abord, et vous l'avez justement, très justement rappelé en ouverture, ce procès c'est d'abord un procès pour les victimes. Elles l'attendent dans le cadre de la reconstruction, de la résilience. C'est un passage obligé. Elles s'y sont préparées aussi, individuellement et collectivement, vous l'avez rappelé, très justement. Ça veut dire qu'elles étaient prêtes à entendre le pire. Mais n'ont-elles pas déjà vécu le pire? Bien sûr. Alors c'est toujours une tentation, et Maître Nogueras le sait bien sûr mieux que moi et que mes équipes qui tentons de suivre toutes les procédures et les audiences terroristes en France. Il le sait très bien. Il y a la tentation chez certains accusés, c'est le cas manifestement de celui qui est intervenu ce matin, enfin aujourd'hui, de faire de ce procès une sorte de tribune, effectivement. Mais personne n'est dupe, vous le rappeliez, surtout pas les victimes. D'autres, effectivement, et je le crois aussi, auront pu réfléchir à leurs actes et peuvent être dans la situation où elles veulent expliquer leurs gestes, leur rôle, leur implication, etc. Et donc c'est ce qu'on attend aussi de ce procès. On n'attend pas des miracles, bien entendu, les victimes surtout pas, les familles surtout pas, mais il est possible qu'effectivement un certain nombre d'accusés auront à cœur d'expliquer leur rôle, leurs gestes et leur implication.
Et auront à cœur, Xavier Nogueras, d'être en contraste justement avec l'attitude qui est celle de Salah Abdeslam. Est-ce que c'est aussi ce que vous dites, vous, à votre client, dont vous avez déjà dit qu'il souhaitait lui parler? Est-ce que cet effet contraste entre les autres et lui compte aussi dans l'image que donnera ce procès?
En tout cas, l'effet contraste, ça vient pas de moi. Moi, je crois qu'à partir du premier jour où je l'ai rencontré, il a souhaité tout de suite, au parloir, me convaincre qu'il faisait pas partie de la sphère terro, qu'il n'a jamais été radicalisé, qu'il conteste entièrement la participation d'une association de fêteurs à visée terroriste, et il a tenu à s'opposer lui-même. Notamment Salah Abdeslam, La question du contraste, elle s'est pas posée avant l'audience d'aujourd'hui, puisqu'on savait pas du tout, de toute façon, qu'est-ce qui allait sortir. Donc, on s'attendait peut-être aussi à ce que celui-ci ne monte même pas jusqu'à la salle d'audience. Aujourd'hui, il l'a fait. Il a parlé. Moi, je vais pas aller lui dire, je vais pas de stratégie, surtout pas dans ces audiences et ces procès-là, de stratégie, je vais dire, regarde, profite du contraste. D'abord, je pense que, il y a un contraste un petit peu naturel. Moi, il s'est extrêmement bien présenté. Il est plutôt, voilà, il a fait un effort. Il s'est apprêté, il essaye de parler distinctement. Mmh. Voilà, ça, ce sont des éléments qu'on lui donne pour effectivement donner la meilleure image de lui. Meilleure, pas dans le sens trafiquer son image, mais l'image la plus fidèle de ce qu'il est. La question du contraste avec Salah Abdeslam, j'aurais même pas besoin de lui en parler. Enfin, je pense que très sincèrement, les choses s'imposent d'elles-mêmes. Et puis, de toute façon, il y a une chose qu'il faut surtout pas oublier. Vous êtes en face de juge. C'est une formation professionnelle. Mmh. C'est une cour d'assises spécialement composée. Monsieur Brizard, vous avez l'expérience avec vos équipes de venir dans toutes ces audiences-là, hein, dans toutes les audiences criminelles à la cour d'assises. Ils sont pas dupes. Ils savent très bien. Ils savent même déceler à l'intérieur. Alors, ils savent pas lire les esprits, hein, mais ils savent aussi déceler un certain nombre de choses. Et il y aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour visuellement regarder qui n'est pas dans la même sphère que les autres.
Personne n'est dupe, en effet. Vous avez raison, Xavier Noguera. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure dans votre passé d'avocat, parce que vous avez déjà participé à des procès terroristes. Est-ce que le procès a vraiment une vertu que disait Jean-Charles Brizard tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce qu'il peut vraiment se déclencher des choses? Est-ce que vous avez vu vous des accusés qui subitement parlent aux parties civiles, parce que cette confrontation, ça va pas être la confrontation la plus facile. Est-ce qu'il peut effectivement se passer des choses, parce que c'est aussi ça qu'on attend, pour qu'il sorte quelque chose, pour que des infos pour que les zones d'ombre qui existent encore puissent être un peu éclaircies, il va bien falloir que cette rencontre se fasse. Est-ce que ça existe au cours d'un procès, ça? D'un procès de ce type, bien sûr.
Bien sûr, je comprends. Ce qu'il faut d'abord comprendre, ça les gens ne le savent pas suffisamment, c'est que on est à trois, en gros, il y a trois procès avec des victimes. Il y a le procès de Charlie Hebdo, il y a le procès de Sid Ahmed Glam, qui a eu lieu cette année, et il y a aujourd'hui ce procès-là. Tous les autres procès, depuis que moi je suis avocat et que je me suis un peu spécialisé dans cette matière, c'est des procès sans victimes. C'est des associations de malfaiteurs. C'est des personnes qui partent en Syrie ou qui veulent revenir.
Il y a le procès
de Thalys avec effectivement une personne blessée. Je vais rectifier ce que je dis. Des procès avec des personnes décédées. Et donc, si vous voulez, l'affrontement entre les personnes concernées et les victimes, en réalité, c'est finalement une quantité de procès. C'est assez résiduel quand vous le comparez à toutes ces procédures, y compris devant la cour d'assises. Hein. Donc, ces affrontements, c'est un peu nouveau pour nous, avocats. Alors, en revanche, pour répondre à l'autre partie de votre question, est-ce que je crois à la vertu du procès? Oui. D'ailleurs, dans le procès de Sid Ahmed Glam, je défendais quelqu'un qui était renvoyé pour une association de malfaiteurs terroristes, quelqu'un qui était issu plutôt du monde du banditisme, qui avait vendu un gilet pare-balles et qui s'est mis à hurler sur l'accusé principal Sid Ahmed Glam lorsque celui-ci ne reconnaissait pas sa participation. Et il y a eu véritablement quelque chose qui s'est passé entre lui et d'autres d'ailleurs, et la famille de la victime. Donc il y a des choses qui naissent de ces situations. Je suis pas sûr que les victimes seront satisfaites des réponses. Je suis pas sûr qu'elles sont véritablement venues les entendre. Il y a un processus. Vous avez commencé par dire que notre système démocratique ne pouvait pas évidemment se passer d'un procès. Le processus judiciaire, il est fondamental. Il doit avoir lieu. Est-ce que toutes les victimes attendent quoi que ce soit? Je suis pas sûr. Et même si ils parlent, est-ce que les réponses seront satisfaisantes? Je sais pas. En tout cas, il faut qu'ils parlent pour l'histoire aussi. Pour la postérité aussi, et puis pour qu'on puisse comprendre ce qui nous est arrivé et comment ça nous est arrivé. En ça, le procès constitue à lui seul une vertu.
Jean-Charles Brizard, est-ce que ce genre d'événement, de toute façon, effectivement, c'est pour l'état de droit qu'on est en train de voir ça? Et parce que la comparaison est d'ailleurs extrêmement intéressante. Il y a un procès qui reprend en ce moment même à Guantanamo avec l'un des grands chefs du 11 septembre. Voyez dans quelles conditions ça se fait 20 ans après. Ce qui se passe ici, à Paris, est tout de même beaucoup plus glorieux pour l'état de droit qui est le nôtre. Est-ce que, au fond, c'est ça d'abord à 80% et à 20% ce qui peut en sortir, ce qu'on apprendra de plus, ou est-ce que le pourcentage est quand même un peu plus écarté, on va dire?
Ce qu'a dit Maître Loguera, c'est très vrai. Tout dépend des circonstances, si vous voulez. Effectivement, on se défend avec les armes du droit, et c'est la doctrine de la France depuis toujours, en tout cas depuis 1986, date des premières lois antiterroristes. C'est bien sûr notre honneur de le faire face à la barbarie. Après, s'agissant de la tenue du procès, effectivement, tout dépend bien souvent soit du président et de ses assesseurs, enfin des jurés qui sont à ses côtés. Je précise que effectivement, même si ce sont des jurés professionnels, les règles restent les mêmes que dans une cour d'assises classique. Et ça, c'est très important. C'est une cour d'assises spécialement composée et non pas spéciale. C'est-à-dire qui serait dérogatoire en quelque sorte du droit commun. Et pour le reste, les différents exemples qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est par exemple Sidar Meghlam, on a eu la pression effectivement d'autres de complices, enfin présumés sur le l'auteur. Et puis surtout, on a eu le témoignage d'une femme veuve d'un des émirs de la cellule des opérations extérieures de l'État islamique, qui est venue témoigner, qui s'est été échappée d'un camp où elle était détenue en Syrie et qui a été interrogée et qui est venue témoigner, contredisant la version de Sidar Meghlam. Et ça, c'est très important. Ça peut être des témoins, ça peut être des présidents également. Je pense à l'affaire Thalys, où son rôle a été imminent pour faire avouer, en quelque sorte, à Ayoub al-Khazani l'entièreté de sa responsabilité dans ces événements.
Et c'est vrai, Charlotte Piret, que ce qu'on a devant nous, c'est 9 mois d'inconnus, y compris pour vous, qui en avez couvert déjà, hélas, j'allais dire, des procès de ce type. Moi, je voudrais savoir ce qu'on a appris des précédents, dont on sait qu'on fera en sorte de ne pas le revoir cette fois. Qu'est-ce qu'on a appris du procès Charlie? Qu'est-ce qu'on a appris du procès Mera, par exemple, des tensions qu'il y avait pu y avoir à ce moment-là, dont on sait aujourd'hui, ça, au moins, on ne le retrouvera pas pendant ce procès du 13 novembre.
On a surtout appris à doser l'équilibre en fait entre les parties civiles et la défense. Ce que disait Maître Nogueras tout à l'heure, c'est qu'effectivement ça a fait partie des premiers procès où il y avait des victimes et donc des parties civiles qui étaient présentes là. Ce qu'on a vu au procès Mera, par exemple, ça a été des difficultés claires pour l'ensemble des avocats de parties civiles à s'entendre sur ce qu'on peut clairement qualifier de guerre d'ego pour beaucoup. C'est apparu aussi dans le procès des attentats de janvier 2015, donc Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère, où on a vu d'autres problématiques arriver, à savoir qu'il y avait une différence numérique immense en fait entre le nombre d'avocats de partie civile et le nombre d'avocats de la défense, qui fait que quand un témoin arrivait à la barre, il subissait d'abord une série de questions pendant des heures et des heures parfois des avocats des parties civiles, avant que ce soit celle des avocats généraux représentants du parquet, et puis enfin la défense, et certaines ont littéralement craqué physiquement et ont refusé de répondre aux questions de la défense, ce qui pose quand même un problème dans l'équilibre des débats. Ces questions-là, elles ont été posées et les magistrats en charge de l'organisation de ce procès-ci, des attentats du 13 novembre 2015, se les sont posés. Il est question d'inverser notamment l'ordre des questions entre les magistrats du PNAT et les parties civiles. Les parties civiles elles-mêmes ont été très nombreuses, les avocats de parties civiles, à s'organiser en groupe pénal afin de un peu modérer les ardeurs de chacun, j'allais dire, mais en tout cas, éviter de faire une somme d'individus et plutôt la jouer collective sur certaines choses. Donc oui, il y a des réflexions qui ont été clairement pensées, et on peut espérer que ça aide à la bonne tenue de ce procès. Et je pense qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé ce matin en arrivant au palais de justice. On s'attendait tous à... Et c'était le cas d'ailleurs, un nombre énorme de personnes qui se dirigeaient vers cette salle avec des enjeux sécuritaires immenses, etc. Un nombre de journalistes incalculable, et on s'attendait tous à un grand bazar géant et des difficultés pour travailler. Et finalement, ça n'a pas été le cas, en tout cas de ce que moi j'ai constaté. Et je pense que j'ai eu le sentiment, c'est sans doute une interprétation personnelle, mais qu'il y avait quand même une conscience générale pour toutes les personnes qui participent à ce procès à titre professionnel ou à titre personnel, de l'enjeu, du poids de l'histoire, si on veut utiliser les grands mots, et de la nécessité de faire les choses dignement, humainement et respectueusement de chacun.
Au retour au standard avec une question d'Arthur, elle est pour vous, Xavier Nogueras. Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
On vous écoute.
J'avais une question pour Xavier qui était de savoir si, d'après lui, il est plus difficile d'être avocat de la défense ou avocat de partie civile dans un procès avec de tels enjeux et tellement d'émotions.
Merci beaucoup pour votre question, Xavier Nogueras.
Alors je vais essayer de formuler une réponse. J'ai pas la réponse, je vais essayer d'en formuler une. J'ai jamais été avocat de partie civile dans un dossier terro. En revanche, depuis quelques jours, grâce à des associations de victimes, à leurs présidents qui font un travail formidable, à des journalistes d'exception que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai pu sortir du cadre de ma fonction d'avocat de la défense et j'ai pris le temps d'écouter les parcours, alors pas tous, hein, mais j'ai entendu, j'ai lu ce qu'a pu être cette horreur en dehors de la lecture du dossier lui-même. Je me dis que c'est un véritable défi d'accompagner une victime tout au long d'une procédure qui est un peu silencieuse, où on ne comprend pas tout. Là, je parle de la procédure d'instruction qui a duré 6 ans, où on n'a pas la possibilité de raconter ce qu'on veut, où on est un peu tenu par le secret, et on a besoin aussi de maintenir ses clients dans une forme de, comment dire, de les maintenir un peu en alerte. Je crois que c'est très difficile aussi de porter le chagrin de ces victimes. C'est une véritable difficulté, je crois, d'être avocat de partie civile, en tout cas je l'imagine. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est du côté de la défense à la fois fascinant, passionnant, mais c'est quelque chose qui vous ronge. Cette difficulté-là, je la mets sur le stade d'une certaine manière, un peu l'autodestruction. C'est quelque chose qui vous détruit parce que à la fois vous êtes face à ces horreurs, vous avez forcément la compassion, l'empathie pour ces générations auxquelles moi-même je fais partie. J'ai l'impression qu'au Bataclan et sur les terrasses, ça aurait pu être mes amis, moi. Qui adore la musique, etc. Et donc pris à la fois avec cette compassion et la nécessité de garder le cap dans un dossier dans lequel il faut rester absolument technique, ne jamais baisser la garde, le nez dans le guidon et travailler. Ce qui est difficile dans ce dossier, c'est aussi c'est de pas se laisser submerger par l'émotion qui va être suscitée par l'horreur, le sang et puis la souffrance des victimes. Maintenant, pour répondre à Arthur. Qu'est-ce que je sentirais le moins difficile? Je répondrais que j'ai l'habitude de ce métier. Alors, j'ai pas l'habitude, hein, j'étais pas prêt. Bon, on n'est jamais préparé à autant de victimes. Je dirais que c'est peut-être avocat de la défense, en ce sens que on est empreint d'un certain espoir, l'espoir de se faire entendre, de se faire comprendre. On fait le choix, attention, de défendre telle ou telle personne. Moi,
quitte à vous faire engueuler d'ailleurs. Quitte à vous faire engueuler, Xavier Nogueras, parce que ça fait passer dans le package aussi. Hein.
Il y a beaucoup de coups à prendre hein, quand on fait mon job, y compris de par ses proches. Alors moi, ils savent, hein, ils me comprennent, ils m'entendent, mais il y a beaucoup d'incompréhension. C'est pour ça que j'insiste beaucoup aussi sur l'aspect didactique. Il faut faire preuve de pédagogie. Il faut que les gens qui sont effondrés face à ce qui s'est passé, saisissent l'opportunité de s'intéresser à ce qui se passe pour comprendre comment ça fonctionne et quel est le rôle de chacun.
Jean-Charles Brizard, ce qui est très compliqué aussi dans un procès comme celui-là, on l'a touché du doigt un peu au fond différemment pendant le procès Mera, c'est que chacun doit bien être conscient que, évidemment, que dans le box, alors est-ce qu'on dit que ce sont les seconds couteaux? Pas forcément, on verra bien à l'issue de ce procès. En tout cas, pas les premières lignes, en quelque sorte. Et là aussi, toute la difficulté, c'est d'être capable de dire ne seront à la fin condamnés que ceux dont on pourra prouver qu'ils ont réellement fait ce dont ils sont accusés. C'est pas un package, en fait, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans les box. Aussi, c'est compliqué.
Ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que dans un procès terroriste, surtout s'agissant d'un attentat, on a rarement les terroristes dans le box, parce que, par définition, ils sont morts. Bien souvent, parce qu'ils ont voulu mourir les armes à la main, comme ça a été le cas dans les récents attentats, effectivement, face aux forces de l'ordre. Donc il y a une sorte de frustration par rapport à ça. Ouais. Pour le reste, non, je réfute ce qualificatif de second couteau. Ces individus, alors après, je ne porte pas de jugement sur leur responsabilité, il appartiendra au tribunal de le faire, mais ont tous joué un rôle à quelque stade que ce soit et à quelque degré que ce soit dans la préparation et la commission de ces infractions. Alors, c'est vrai à des degrés divers.
On est d'accord que chaque rôle a un degré divers.
Il y a des convoyeurs, des artificiers, il y a des commanditaires aussi qui seront jugés, enfin l'un d'entre eux en tout cas, jugé par défaut. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'attentat, c'est le dernier maillon d'une chaîne. Sans les maillons précédents, l'attentat ne peut pas avoir lieu. Donc tous ont joué un rôle, pour laquelle je n'aime pas le qualificatif de petite main. Non, ils ont tous collectivement une responsabilité, et sans eux, ces attentats certainement n'auraient pas pu avoir lieu.
Charlotte Piret, qu'est-ce qui nous manque et que on voudrait connaître, en fait, parce que le déroulé, il y a beaucoup de choses dans le déroulé qu'on sait désormais sur ce qui s'est passé le 13 novembre, y compris d'où venait chacun des individus et chacun des participants. Quels sont les blancs, en fait, les blancs principaux, quelles sont les choses qu'on aimerait savoir à l'issue de ce procès que pour l'instant on ne sait pas?
La première chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de blancs, en fait. Il y a eu un travail fourni par les juges d'instruction de la Galerie Saint-Éloi, de la Galerie antiterroriste, qui a été un travail colossal, qui a duré 4 ans. Ensuite, on a eu toute la phase post-ordonnance de mise en accusation. Donc, les pièces du puzzle, en fait, on les a quasiment en totalité. Malgré tout, il reste quelques blancs, évidemment. Certains sont liés au mutisme de Salah Abdeslam, qui certes s'est exprimé assez brièvement devant les enquêteurs belges dans la foulée de son arrestation, mais qui a choisi de faire usage de son droit au silence face au juge d'instruction français. Et effectivement, notamment, toute la question étant de savoir s'il a déclenché ou non sa ceinture explosive, dont on sait qu'elle était défectueuse ce soir-là. Mais il y a aussi d'autres questions un peu plus annexes, en tout cas, qui ont été moins médiatisées, comme par exemple le rôle exact qu'aurait dû jouer Mohamed Abrini, qui est aujourd'hui également dans le box des accusés, et qui a été une des personnes participantes aux attentats de Bruxelles en 2016. Il s'est présenté avec des explosifs avant de se raviser au dernier moment. On se demande si Abrini n'avait pas été prévu comme devant faire partie des commandos du 13 novembre. Donc voilà, il y a des éléments qui restent. Il y a aussi des questions qu'attendent les parties civiles. Beaucoup en ont parlé de ça, de la responsabilité de l'État, comment les personnes revenues de Syrie ont pu passer sous les radars, etc. Donc oui, il y a des questions maintenant sur encore une fois sur l'image globale et la manière dont à la fois ont été pensées, préparées, se sont déroulés et ensuite ont eu lieu l'exfiltration et la traque, le fait que certains terroristes se soient cachés. Tout ça, on a quand même globalement les éléments en tête.
Mais vous savez pourquoi je vous pose la question, Charlotte? Parce que j'ai l'impression, en écoutant les témoignages que vous avez recueillis et qu'on a entendus ces derniers jours avant l'ouverture du procès, j'ai l'impression que, au fond, ce qu'attendent les parties civiles, c'est moins un comment qu'un pourquoi, en fait. Et le pourquoi sera probablement beaucoup plus difficile à sortir dans le box des accusés.
C'est un peu la question à laquelle personne ne peut répondre finalement, parce que le terrorisme, c'est ça, c'est quelque chose qui, pour nous, dans notre esprit et dans notre manière de vivre avec nos valeurs qui sont celles qu'on porte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'absurdité totale, en fait. Donc le pourquoi, je ne sais pas si on aura un jour la réponse à ces questions. On aura des éléments de réponse en essayant de prendre le temps de comprendre les démarches de chacun de ces accusés et comment ces hommes-là finalement arrivent un jour à participer à ces faits-là. Peut-être que ça peut nous donner des éléments, et c'est pour ça, pour revenir aussi sur la durée de ce procès, qui est une des questions qui se pose souvent, pourquoi on prend 9 mois pour se pencher sur ces faits-là, parce que c'est nécessaire de prendre le temps d'examiner accusé par accusé, personne par personne, le niveau d'implication, le parcours, ce qui fait qu'un jour on en arrive là, et c'est important pour nous, médias, je pense aussi, et c'est pour ce pourquoi France Inter a fait le choix d'une couverture intégrale, d'être là aussi pour l'observer et pour l'expliquer au grand public. Effectivement, ça va peut-être être des éléments pour répondre à cette question du pourquoi. Maintenant, je ne suis pas tout à fait sûre qu'on ait un jour une réponse simple et lisible.
Quentin est avec nous. Bonsoir, Quentin.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Je voulais faire une petite observation par rapport à certaines interventions qui ont eu lieu en début d'émission. Je trouvais qu'il y avait une volonté assez présente d'essayer de comprendre si les accusés vont avoir oui ou non une prise de conscience, s'ils vont pouvoir changer, comprendre que c'était mal, etc. Alors ça m'étonne un petit peu, parce que je sais bien que dans la justice, il y a un peu deux aspects. Il y a d'une part l'aspect réinsertion des... dans l'idéal, il faut toujours penser à la possibilité d'une réinsertion des accusés qui seront ensuite condamnés. Mais il y a surtout un deuxième aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la protection des citoyens contre ce genre d'individus. Donc si je voulais résumer les choses, mon intervention, de façon un peu sommaire, je dirais que finalement, les citoyens français, à mon avis, ne se préoccupent finalement que très peu de savoir si ces accusés vont avoir une prise de conscience, passer du mal vers le bien avec un grand B. Mais les citoyens, à mon avis, veulent plutôt savoir si effectivement ces personnes vont être le plus longtemps possible comme on le souhaite, finalement hors d'état de nuire entre guillemets, en étant le plus longtemps possible en incarcération. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. Quand on va poser la question tout à l'heure à Xavier Nogueras dans un instant, mais Jean-Charles Brizard, moi j'ai pas tellement que c'est l'idée de passer du mal vers le bien, mais c'est de pouvoir qu'il puisse y avoir un échange avec les parties civiles, qu'il puisse au moins y avoir quelque chose qui dit j'ai fait effectivement ce dont on m'accuse, ou pas d'ailleurs, mais que en tout cas cette rencontre se fasse. En fait.
Alors ce sont des questions et des réponses attendues, peut-être pas par les citoyens, mais effectivement les victimes et leurs familles posent ces questions et attendent ces réponses, effectivement. Vous parliez tout à l'heure du pourquoi et du comment. Bien sûr, c'est au cœur même du processus judiciaire. Sur le pourquoi, il y a des zones d'ombre. Sur le comment, il y a des zones d'ombre, vous en avez parlé. On aurait pu rajouter que les investigations n'ont pas permis, par exemple, d'identifier la source et les fournisseurs d'armes, des armes utilisées le 13 novembre. On aurait pu rajouter que les commanditaires, on n'en sait pas beaucoup. On a nommé effectivement Oussama Attar, mais on n'a pas reconstitué la chaîne de commandement, la chaîne de responsabilité qui a mené à ces attentats.
Présumé mort, hein. Présumé.
Présumé mort, tout à fait, toujours présumé, bien sûr, et qui sera néanmoins jugé. Sur le pourquoi, il y a eu un début de réponse de la part de l'État islamique dans sa propagande. Hein. Ces attentats ont été menés en représailles aux actions de la coalition contre l'État islamique. Maintenant, il va falloir répondre individuellement. Est-ce qu'on aura des réponses sur le pourquoi individuellement de la part de ces personnes? Effectivement, rien ne permet de le dire à ce stade, mais ces questions, elles sont parfaitement légitimes. Il faut comprendre que ce procès, c'est d'abord et avant tout celui... c'est un processus essentiel pour les victimes et leurs familles. Et encore une fois, elles sont dans cette logique-là, ces personnes.
Xavier Nogueras, j'aimerais bien votre sentiment sur la question de Quentin.
Juste avant de répondre à l'observation de Quentin, dans le pourquoi, la question pourquoi elle se dédouble en réalité. Pourquoi est-ce que vous êtes venu nous attaquer? Et puis c'est surtout, et en tout cas c'est ce que je décèle, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à empêcher ça? Donc en fait c'est aussi une certaine manière de ventiler volontairement ou involontairement la responsabilité. Le contrat social, c'est annihiler une partie de sa liberté en échange obtenir une certaine sécurité sur le territoire. On a le droit d'aller dans une salle de spectacle ou sur une terrasse de café et ne pas s'attendre à se faire assassiner. Donc il y a aussi dans le pourquoi cette question-là. Non, mais pour répondre à l'observation, vous m'interrogez tout à l'heure sur la vertu du procès, notamment en fonction du comportement de Salah Abdeslam. Moi, je vous dis concrètement les choses. Je vais répondre en deux temps. D'abord, quand je vous entends, M. Brizard, dire qu'ils ont tous leur part de responsabilité, j'aimerais simplement rappeler qu'aujourd'hui, ils comparaissent devant une cour d'assises parce qu'il y a des charges. Quand vous êtes placé en garde à vue, vous avez des éléments contre vous. Quand vous êtes mis en examen, vous avez des indices graves ou concordants. À la fin d'une instruction, vous avez des charges. Et le travail de la cour d'assises, c'est de voir si ces charges sont solides et si elles peuvent ou non se transformer en preuves. Preuves sans lesquelles vous ne pouvez pas être condamné. Ça me semble essentiel de le rappeler. Donc la responsabilité, on peut la déduire d'une lecture qu'on peut se faire d'une ordonnance de mise en accusation. On n'a pas forcément, moi j'ai pas la même vision des choses s'agissant de certains dans ce box. Et qui plus est, s'agissant de la personne que j'ai choisi de défendre, que j'ai décidé de défendre au regard de la technicité de l'infraction d'association de malfaiteurs. Il y a aussi la question de la connaissance de ce qui allait se passer. Oui, évidemment, s'il n'avait pas aidé à louer des véhicules, ces véhicules n'auraient pas servi à aller chercher les types à l'aéroport. Et si vous louez des véhicules, c'est pas comme vendre une arme ou vendre un gilet pare-balles. Il y a quand même, si vous voulez, aussi une part de lui-même qui ne s'attendait évidemment pas à ce qui allait
se passer. Ça dépend si vous savez à qui vous les louez, etc. Enfin bref, on va pas le faire maintenant.
Non, mais elle est très intéressante, votre remarque. C'est exactement ça. Mais voyez, entre dire ils ont tous leur part de responsabilité et commencer un petit peu à nuancer les choses sur la capacité qu'avait un individu ou pas de déceler la radicalisation d'autrui, c'est là le cœur du procès. C'est pour ça que ça prend, et Charlotte Piré avait raison, ça prend des mois pour analyser les personnalités, pour analyser les charges, les procès-verbaux d'exploitation, des téléphones portables, des clés USB, les confrontations entre les uns les autres, confronter la procédure belge, voir si elle rentre dans le cadre de la procédure française, que chacun ait sa place, puisse poser des questions aux enquêteurs pour éventuellement les contester. Tout ça, c'est un travail qui est colossal.
Ce que vous dites en creux, c'est que c'est très compliqué.
Je termine. en tant que professionnel qui doit surtout nous imposer à ce stade, au premier jour de l'audience, de ne pas avoir de conclusion trop hâtive, telle que, et avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Brizard, et surtout celle de Quentin qui nous dit, moi, je comprends, hein, qui nous dit, moi, ce que j'attends, c'est qu'il reste le plus longtemps en prison avant qu'il soit condamné, il y a 9 mois pour savoir si ces charges vont se transformer en preuves.
Et c'est bien parce que c'est aussi complexe que ça va être si long rapidement,
Monsieur Brizard. Si vous m'avez bien entendu tout à l'heure, j'ai parlé du rôle de chacun. Ils ont tous eu un rôle, mais s'agissant de la responsabilité, j'ai dit qu'il reviendrait au tribunal, effectivement, de déterminer leur responsabilité éventuelle. Mais j'ai bien parlé du rôle qu'ils avaient eu, effectivement, sans porter de jugement sur le fait qu'ils aient agi en connaissance de cause, etc. Ça, il reviendra au tribunal.
C'est parce qu'il y a complexité, encore une fois, qu'il y a complexité que ça dure aussi longtemps. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Charlotte Pirey, il y a une question pour vous sur franceinter.fr et qui parle de votre accès aux victimes au cours de ce procès. On a tous vu qu'il y avait des badges de couleur, en fait, enfin des cordons de badges de couleur pour que personne ne commette d'impair, en fait. Je suis assez curieuse, donc ça veut dire qu'en gros, les victimes qui veulent bien parler aux journalistes ont une couleur, celles qui préfèrent qu'on soit discrète avec elles ont une autre couleur. Je suis assez curieuse de savoir si ça s'était déjà produit avant, si c'est très inédit, très spécifique à ce procès.
C'est totalement inédit en France. C'est un dispositif qui existe déjà dans plusieurs autres pays. Et c'est d'ailleurs de là dont on s'en est inspiré. Effectivement, c'est le premier procès où c'est le cas. Très concrètement, c'est un cordon rouge quand on ne veut pas être abordé par des journalistes et vert quand on est disposé à l'être. Je crois que ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui. La majorité des parties civiles qui étaient présentes, et elles étaient relativement peu nombreuses, eu égard aux 1800 personnes constituées à ce stade dans le dossier, la majorité d'entre elles avait un cordon rouge aujourd'hui. Après, très précisément, si la question portait également sur notre travail à nous, il se trouve que nous, France Inter, on a rencontré avec ma consoeur Sophie Parmentier énormément de parties civiles et de personnes victimes de ces attentats depuis plusieurs mois où on travaille sur le dossier. Et donc, il y en a certaines qu'on connaît personnellement et qui, malgré un cordon rouge, sont venues nous parler également. C'est aussi une question de droit à l'image et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et ça, c'est aussi une réalité, qui nous disaient avoir peur de manière, et tout en reconnaissant que cette peur n'était pas toujours rationnelle, puisque ici, l'île de la Cité étant totalement bouclée, on est un des sites les plus sécures au monde, après le Pentagone, m'a-t-on dit. Donc, effectivement, le risque d'attentat ici, sur place, est peut-être relativement faible, mais il n'empêche que beaucoup de parties civiles, et c'est une des répercussions du fait d'avoir vécu un tel attentat, ont peur de venir aujourd'hui, ont peur de se présenter à la barre quand ce sera leur tour. Et donc, il y a aussi cette volonté de ne pas apparaître dans les médias pour beaucoup.
Merci beaucoup. Merci vraiment à tous. Ça ne fait que commencer. Ce sera de toute façon passionnant à suivre, passionnant pour l'histoire aussi. Il y aura beaucoup de choses à en dire, et grâce à vous, Charlotte Pirey, grâce à Sophie Parmentier, on pourra le suivre tous les jours sur France Inter, sur franceinter.fr également. Merci à vos nombreuses questions. Portez-vous bien.